Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gones qui cause culture sur lyondemain.fr.
Bonjour à toutes et tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre émission. Le mois de décembre passe très vite et déjà Noël se profile à l'horizon. Restez avec nous jusqu'au bout, nous aurons peut-être des suggestions à vous faire pour les cadeaux à placer au pied du sapin. En attendant, cette semaine, c'est une actualité culturelle sous le signe de la littérature avec notre première invitée, Judith Viard, autrice et enseignante, qui vient de publier Pas d'équerre aux éditions Louise Bottu. Pour suivre, Gaëlle nous parle des filiations lyonnaises du peintre symboliste Gustave Moreau à la fondation Renaud, fort de Vaise. Et Thomas nous fait découvrir Jean-Claude Pirotte dans Les Contes bleus du vin. Et nous terminerons par nos Gédéon, bien entendu. Nous débutons avec toi, Guillaume, et notre invitée commune, Judith Viard. Merci à tous les deux d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir, Judith, pour votre livre « Pas d'équerre » aux éditions Louise Bottu. Je te laisse la première question, Guillaume.
J'ai vraiment adoré ce livre « Pas d'équerre ». Alors, pas seulement parce qu'on fait le même métier, donc enseignante en lycée professionnel et de lettres, histoire, géographie, mais parce que, voilà, c'est rare des livres d'enseignants qui ne sont pas un peu chiants, qui racontent des choses un petit peu qu'on a déjà entendu mille fois. Ce livre, on passe souvent de choses très drôles à des choses assez tragiques, à des choses très poétiques, avec aussi des faits sur ce qui est en train d'arriver au lycée professionnel. Mais moi, d'abord, je voulais revenir sur la forme.
Ouais.
Parce que dans tous tes livres, tout à l'heure, en aparté, tu parlais de recueil. T'as pas parlé de roman, t'as pas parlé de livre,
oui.
Tu parlais de recueil. Et donc, souvent, c'est la forme. Bouquin précédent, peut-être, donc le jour où la dernière Claudette est morte.
C'est ça.
On en avait déjà parlé à cette antenne. Ensuite, il y a eu...
Les gens ne se rendent pas compte.
Voilà, et puis à deux mains, à quatre mains plutôt.
Comme tu veux, à quatre mains, voilà. Oui, sur le clavier.
Voilà.
Avec Frédéric Houdard, édition Sous le sceau du tabellion, voilà. Dur comme le bois, c'est un recueil de nouvelles.
De nouvelles, voilà. Ouais. Mais moi, je voudrais revenir sur la forme du livre, en fait. Moi, ça m'a assez passionné. Et en fait, parfois, tu as des phrases bornes, enfin toutes seules, sur une page, quelquefois très espacées, quelquefois au contraire très serrées. Mmh. Voilà. Moi, j'aimerais aimer que tu nous dises comment tu as pensé le livre.
Oui, j'ai vraiment pensé la structure du livre. En fait, j'avais un dossier depuis plusieurs années avec des textes relatifs à mon expérience professionnelle. Mais tout ça, c'était en vrac dans un dossier sur mon ordinateur. Et puis, quand je me suis mise à penser ce recueil, il y a une structure qui m'est venue assez vite. Je l'ai pensé vraiment pour qu'on sente une tonalité une fois qu'on a lu le livre et qu'on l'a fermé, qu'il reste quelque chose. Ce sera à toi de me dire quelle tonalité tu sens. Et donc, et un double temps déjà, on va dire que ça se passe sur une année scolaire, puisque le recueil est divisé en trois trimestres. Et puis, il y a un temps un peu plus long, qui c'est un temps sur une quinzaine d'années, avec les différentes réformes qui viennent rythmer le recueil et qui montrent aussi un délitement, voire un chaos. C'est presque la chronique d'une mort annoncée, finalement, ce recueil. Mmh. Et à l'intérieur de cette chronique d'une mort annoncée, les interstices de lumière que l'on met nous et avec nos élèves, bien sûr. Donc, c'est vrai que le lecteur peut être décontenancé au départ parce qu'il y a trois voix. Il y a la voix du professeur, la voix des élèves, et donc j'ai voulu faire passer cette voix à travers les dialogues, mais également à travers leurs propres écrits, puisqu'en fait les écrits poétiques que l'on rencontre dans ce recueil, ce sont ceux qui ont été créés au cours d'ateliers d'écriture sur plusieurs années avec le magnifique poète Patrick Lopin, qui est venu souvent dans mes classes et avec lequel j'ai travaillé très souvent. Et puis la voix de l'institution qui passe par des textes qui sont pour le coup pas du tout poétiques, c'est très trivial, puisque ce sont les textes de réforme. Donc en fait, on a ces trois voix.
C'est aussi une chronique de la transmission. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup. Il y a tellement de passages que je pourrais citer que voilà, il y en aurait trop. Mais à un moment, tu parles chaque jour, chaque heure, le job de l'entrebâillement. J'ai beaucoup aimé ce passage-là parce que c'est vrai que c'est le quotidien. En fait, on ne sait pas trop ce que l'on sème, ou plutôt on sème, mais on ne sait pas trop ce qui pousse derrière. Et cette chronique de l'entrebâillement, c'est vraiment très beau. Et de lire en fait ce qu'écrivent les élèves, c'est parfois très touchant, c'est assez violent. Il faut quand même préciser aussi à l'auditeur que toi, tu as des élèves qui sont primo-arrivants, qui sont allophones. Oui. Donc ça rajoute quelque chose, hein, je pense. Ouais.
C'est vraiment un mélange. Enfin, tu connais le lycée professionnel. Oui. Moi, je suis dans l'industriel, en fait. Mmh. Hein, je suis dans un lycée du bâtiment. Donc, en effet, il y a toutes sortes d'élèves, hein, mais notamment ces élèves migrants qui arrivent, qui sont souvent allophones. Hein, alors, pas tous, mais certains ne maîtrisent pas le français. Et ils l'apprennent en partie au lycée professionnel. Hein. Et puis oui, c'est évidemment un livre sur la transmission. En toute humilité, en fait, on fait ce qu'on peut avec les moyens que l'on a. C'est aussi un livre sur un positionnement, en fait, parce qu'on est quand même dans un système ultra violent. Eux le sont aussi, parce qu'il y a l'OQTF, enfin les obligations de quitter le territoire, parfois qui les paralysent au quotidien. Comment nous, on se positionne en fait en tant qu'adulte face à ces jeunes-là? Et puis face au système, en fait, on me demandait il n'y a pas longtemps si je croyais dans le système de l'éducation nationale. Mais en fait, moi, je me lève le matin en disant que je vais avoir des jeunes devant moi qui ont besoin encore un petit peu de moi. Et tant qu'ils seront là, je serai là devant eux pour faire le travail. C'est ce que j'essaye de transmettre. Et puis, je pense que la poésie, on peut la... Elle peut être, elle va, je ne sais pas si elle va sauver le monde, hein, comme le dit Monsieur Siméon, mais en tout cas, elle est là, j'espère, à toutes les pages.
Oui, mais là, tu parles des élèves et en fait, tu parles peu, en fait, de ton travail d'écrivain, parce qu'il y a un vrai travail d'écriture, moi, je trouve, dans le livre.
Oui, alors
il y a vraiment quelque chose de très, très touchant, léger. Voilà, ce mélange, comme tu dis, de plein de voix, fait qu'on est vraiment parfois captivé. Et c'est l'acuité des petits riens. En fait, tu t'attaches à des petits riens, mais qui sont énormes, en fait. Moi, je rapprochais un petit peu à ta passion pour le Polaroid. Il y a un petit peu de ça aussi. En fait, tu fais des petites photographies instantanées de ce qui s'est passé au cours de ces 15 années, en fait, d'enseignement.
Oui, c'est ça. Et puis tu disais que on ne sait pas ce qui va atteindre, on ne sait pas à quel moment ça va atteindre. Le Polaroid, c'est ça, c'est un truc qui se dévoile progressivement, on ne voit pas tout de suite l'image. C'est un peu ça. Alors moi, j'aime la forme courte, ça me plaît beaucoup comme exercice d'écriture. Et puis l'instantané Polaroid, oui, qui se dévoile... Qu'est-ce qui reste de la transmission, en fait? Parfois, des élèves sont très rétifs à notre enseignement et puis, en fait, on les croise 10 ans après. Ils se jettent dans nos bras comme si on était leur meilleur souvenir, qu'on n'avait pas du tout l'impression. Ouais.
Mais après, sur l'acte d'écrire, il y a aussi quelque chose de très intéressant sur le fait que tu leur dis, voilà, des poncifs, mais l'inspiration n'existe pas. On peut parler de toutes petites choses.
Ça, c'est un travail de déminage, en fait, avec les élèves. En France, en fait, il y a quand même une sacralisation de l'écriture, voire une intimidation universitaire. Donc l'écriture, le théâtre, l'opéra, ça devient en forme des formes pour l'élite, on n'a pas le droit d'y toucher. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est vraiment un travail de déminage avec les élèves quand je les fais écrire. C'est déjà leur dire, mais ta voix a le droit d'être ici. Je me souviens d'élèves que j'ai emmenés au théâtre et qui se disaient, mais on n'a pas notre place ici. J'en parle un petit peu quand on va voir la pièce avec des textes de Mahmoud Darwish que eux avaient appris par cœur. Je leur ai dit, mais les spectateurs, eux, n'ont pas appris ces textes par cœur, ils connaissent peut-être même pas Darwish, vous le connaissez mieux qu'eux. Mais en fait, c'est un travail de déminage. Et quand je dis l'inspiration n'existe pas, c'est pas tout à fait juste. Je sais que ce qu'on appelle inspiration, ça peut exister dans les grandes lignes. Je ne rejette pas cette idée, mais en tout cas pour eux, j'ai besoin de leur dire que l'écriture, elle est là à portée de main.
Alors peut-être avant de laisser Gaëlle poser une question quand même, moi j'aimerais revenir, moi il y a des scènes je trouve très burlesques en fait.
Oui.
Et alors j'en cite deux, voilà, je trouve très drôle tout ton passage et puis à la fin l'élève qui dit, mais en fait madame voilà, vous pourriez pas faire autre chose? Ben, si, je pourrais faire
hôtesse de bar à ongles, parce que je pense que là j'aurais plus de succès et ouais, puis là on se sent utile parce que les dames repartent avec des beaux ongles.
J'aime beaucoup le passage sur l'enfer des fille en maillot de bain, tu peux...
Oui, alors le raconter, je sais pas, mais c'est le jeune homme qui me dit que dans son pays, les filles n'ont pas le droit d'être en maillot de bain sur la plage et qu'elles iront en enfer, et je leur dis, ça doit être chouette, l'enfer quand même, plein de nanas en maillot de bain, enfin voilà, bon, mais ça c'est...
C'est très poétique et il y a des passages, mais qui sont hilarants, il y a des mots très justes sur les garçons.
Ouais, alors il y a une trentaine de filles dans mon lycée, mais c'est pas beaucoup sur les 500 élèves. Ouais, j'ai tenu à faire des pages sur nos garçons. On pense beaucoup aux filles en ce moment, et à juste titre, il y a beaucoup de choses à faire pour les filles et avec les filles, mais je trouve qu'on laisse souvent les garçons de côté, et quand on leur parle, je trouve qu'on leur parle mal. J'ai vu des séances d'éducation à la sexualité, à la santé, etc., où on leur parlait comme à des potentiels agresseurs. Et moi, mes élèves, enfin la plupart, mais la plupart sont d'adorables garçons, très sentimentaux, très gentils, qui ont peut-être besoin de connaître 2-3 choses sur les filles, mais je pense qu'ils ont vraiment besoin d'être protégés et ils ont besoin d'être écoutés aussi, et il faut leur parler correctement. J'ai en moi un féministe dans lequel les hommes et les femmes se tiennent la main, ne se font pas la guerre.
On le disait, c'est pas d'équerre aux éditions Louise Botu. C'est un livre qui est assez court, vous disiez, vous aimez les formes courtes.
Oui.
C'est très ramassé, c'est assez puissant parce qu'il y a un rythme. Est-ce que ce rythme vous vient de la manière en fait dont vous avez pratiquement toujours écrit?
Oui, depuis que je suis enfant, j'aime bien les formes courtes. En fait, j'ai écrit très tôt des petites nouvelles, des nouvelles fantastiques.
Vous le dites dans votre biographie.
Des fausses lettres, des faux carnets.
Écrit un roman illustré à 11 ans.
Oui, Oui, je m'étais lancée dans une entreprise. Oui, j'aime beaucoup la forme courte et moi, je suis lectrice de forme courte. J'adore les aphorismes, la précision du langage, les moralistes du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et puis après, la poésie de Brötigam, Mukowski, Carver qui a écrit des nouvelles. Alors, ce qu'on faisait avec Patrick, c'est qu'on passait une demi-heure, trois quarts d'heure à lire des textes, mais vraiment de tout, quoi. Céline, Duras, les carnets de Marilyn Monroe qui sont fabuleux. Mais en fait, on leur lisait vraiment tout et n'importe quoi, et toutes les formes, en fait, des passages de romans, de poésie, de chansons, pour qu'ils entendent aussi d'autres musiques, ils baignent dans le rap, et parfois ils sont tellement influencés qu'ils vont avoir tendance au départ à écrire des choses très rythmées avec des rimes un peu faciles, etc. Donc on leur apportait aussi cette nourriture avant l'atelier pour qu'ils chopent 2-3 choses et qu'on parte de là. Ouais.
Alors peut-être, puisque moi d'habitude je fais la musique, et ton livre s'ouvre quand même sur une citation des Clash, Should I stay or should I go?
Ah ouais, tiens,
c'est bizarre. J'ai bien compris à quoi tu faisais allusion, mais le livre se ferme quasiment, pas tout à fait, par en cet instant je sais pourquoi je continue d'être professeur en lycée pro, que tu vas poursuivre ou...
Ouais, écoute, l'avenir le dira. Je ne sais pas à quoi vont ressembler les prochaines réformes. Peut-être qu'on va être jeté, en fait, avant qu'on ait envie de complètement partir. Il faut quand même être intègre et honnête face à nos élèves. Je veux dire, si on y va, il faut être là. Et vraiment, si on n'a plus envie d'y être et qu'on ne fait que subir, il faut partir. Alors, tant que je ne fais pas que subir, je resterai. Moi, j'ai un temps partagé entre la fac et le lycée pro. J'ai préparé un peu ma fugue il y a 6 ans, si tu veux. Donc, je suis entre les deux. Je fais le grand écart. Donc, j'ai des étudiants et ses élèves. Donc, ça me permet quand même de ne pas être à 18h, 20h uniquement en lycée professionnel. Je pense que ça m'aide, que j'y suis encore et que je prends encore du plaisir.
Alors, peut-être pour terminer sur une note musicale, si tu devais choisir entre Brigitte Fontaine et Jane Birkin...
Brigitte Birkin,
voilà. Bébé. Tu auras peut-être un titre de Brigitte Fontaine, parce que voilà, les textes sont tellement importants. Et puis, elle aussi, elle écrit des romans. Je ne sais pas si on peut appeler ça roman.
Ouais, des romans, de la poésie,
voilà, complètement.
La chanson. Oui, j'aime beaucoup ce personnage, sa liberté.
Merci beaucoup, en tout cas, Judith.
Alors, merci beaucoup pour votre invitation.
Ouais, d'être venue nous rencontrer, c'est un plaisir. Et puis, je pense que le livre va beaucoup circuler parmi les chroniqueurs ici. Merci.
Merci beaucoup à tous les deux.
Carmisole de force, reloqué Crazy Horse. Je m'appelle Lola, je suis une paria. Une moudjahida, l'alpha et l'oméga, progresse seule et folle. Serpillère espagnole, camisole de force, relookée Crazy Horse, menottée on me traîne, en fleurie et en frêne, parce que j'ai volé. poupées pour mes petits enfants. Aux yeux d'anges mourants. Camisole de force, reloqué Crazy Horse. Je subis tous les viols, sévices sur le sol. Directeur et matrone, me gavant, m'étouffant, de gros tombacs sanglants, camisole de force, reloqué Crazy Horse, pour calmer l'armada. Je fais du close combat et je vais au mitard, résidence au placard. Je suis inanimé sur le béton glacé. Puis je suis libéré. Un jour d'hiver givré, mes enfants à la DAS et mon cœur plein de glace. J'escalade un crassier, je tue un négrier, j'erre dans les banquises, je finis aux assises.
Bonjour Gaëlle, pour ta chronique du jour, tu nous proposes de gravir la colline à l'assaut du fort de Vaise et de la fondation Renault. En introduction, j'évoquais une émission sous le signe de la littérature avec le peintre symboliste du 19e, Gustave Moreau. Le narratif est toujours présent. Nous t'écoutons.
Donc l'exposition s'intitule « La fabrique du regard, les filiations lyonnaises » de Gustave Moreau à la fondation Renault, fort de Vaise. Achevé en 1848, le fort de Vaise, tout comme les forts Saint-Jean et Loyas, protégeait initialement Lyon avant de devenir un espace artistique porté par une dynamique programmation. Les frères Serge et Jean-Jacques Renault, R-E-N-A-U-D, à ne pas confondre donc avec une quelconque marque de voiture, achète le fort de Vaise en 1982. En 1994, la fondation Renault est créée. La fabrique du regard, les filiations lyonnaises de Gustave Moreau mettent en avant la relation maître-élève. Dans ce tandem, les élèves pétris d'apprentissage, de transmission et d'héritage artistique portent une ascendance. Persiste une question. Quelle part de son œuvre l'artiste doit-il à son maître ? L'exposition évoque les étapes de formation des élèves. Ils boivent inévitablement à la source de leur maître jusqu'à leur émancipation, leur affranchissement artistique pour aboutir à un style qui leur est personnel et singulier. Pour Gustave Moreau, artiste symboliste, les sensations du peintre s'inscrivent en priorité dans sa vision personnelle. Instigateur d'une grande liberté dans l'interprétation de la nature, il incitait également ses élèves à avoir l'imagination de la couleur. Avec un enseignement permettant une telle liberté, ses élèves l'adoraient. Élèves illustres tels que Henri Matisse, Albert Marquet, Henri Manguin, Charles Camoin et son disciple préféré, Georges Rouault, devenu en 1903 le premier conservateur du musée Gustave Moreau, situé dans l'ancien atelier parisien du maître. Mais comme élève aussi, Georges Descotes, clé de voûte de l'exposition à la Fondation Renault. L'exposition puise dans plusieurs collections, dont l'ample collection de peintures lyonnaises de la Fondation Renault pour la salle finale, et s'organise autour de 5 sections. L'atelier, la lumière, le laboratoire de l'intime, la figure humaine et le paysage. La scénographie vous permet d'accompagner la genèse des œuvres, depuis les croquis et dessins préparatoires, la finalisation de la ligne et du trait, jusqu'aux pratiques de composition et d'utilisation de couleurs. Cette perspective didactique fait toute la singularité de cette exposition. Ainsi, les techniques picturales, huile, aquarelle, gouache, lavis, les différents procédés de gravure, eau-forte, taille douce, pointe sèche et les monotypes n'auront plus de secret pour vous. Par exemple, dans la section « Le laboratoire de l'intime », cet angle pédagogique s'illustre parfaitement dans un focus fait sur la composition. En vis-à-vis d'un tableau d'un bouquet de fleurs de Louis Chara, un panneau détaille et explique les grands préceptes de composition. Angle de vue, mise au carreau et choix de trame, choix de la proportion dorée avec le nombre d'or, géométrie et circulation du regard. Comprendre le fil de la transmission, c'est aussi s'attarder dans l'espace consacré à Georges Descotes, l'auteur des grands vitraux de la nef de la basilique de Fourvière. Élève donc de Gustave Moreau, il a eu Louis Chara comme disciple, lui-même maître de Claude Grand, lui-même maître de Fabienne Comte. Sémillante, passionnée et passionnante artiste Fabienne Comte. Forte d'une double formation, Beaux-Arts de Lyon et Anthropologie, elle est également professeure en arts et techniques de représentation à l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon. Fabienne Comte est l'une des trois commissaires de l'exposition avec Stéphanie Rojas-Perrin et Patrick Charavel. Élève de Claude Grand, porteur donc de l'ADN de Gustave Moreau, Fabienne Comte a mené un vaste travail d'investigation sur Claude Grand, compilation de documents d'archives et collecte d'écrits et de dédicaces de son maître, auquel elle rend un vibrant hommage. Hommage également abordé de manière collective dans une vidéo qui regroupe 5 témoignages d'élèves de Claude Grand dans la dernière salle de l'exposition. L'exposition « La fabrique du regard, les filiations lyonnaises » de Gustave Moreau est programmée à la Fondation Renaud Fort de Vaise jusqu'au 11 février 2024. Plus d'informations sur fondation-renaud.fr.
Merci beaucoup Gaëlle, ça donne vraiment envie et c'est vrai que le lien avec la littérature est tout trouvé. Merci. Bonjour Thomas, tu vas nous faire découvrir la prose d'un épicurien, Jean-Claude Pirotte, dans les Contes bleus du vin. Recueil de chroniques lues au micro d'une radio belge. On en parle après. Nous sommes tout ouïes.
J'ai beau me morigéner, je n'arrive pas à quitter la Bourgogne. C'est que, sans nul doute, le terroir bourguignon est inépuisable. Et lorsque je crochette au fond de cette cuve qu'est ma mémoire, ce sont des lits et des moûts de Bourgogne que mes ongles tachés de mauve ramènent au jour. Un jour, à la fois triste et doux, parce que j'ai bu souvent les grands crus trop jeunes et que, dit-on, c'est une hérésie. Mais je l'avoue, à ma honte, si vous voulez, l'impatience quelquefois me tient lieu de vertu. Impatience, au demeurant, qui se garde bien de toute frénésie et que mes amis des vignerons qui m'ont appris le peu, le trop peu de choses que je sache, partageaient avec moi. Car l'impatience de goûter n'a rien de commun avec l'impatience de boire. Lorsque je vivais dans la côte de nuit, j'ai quelque peu pratiqué clandestinement l'un des plus beaux métiers du monde et j'ai conscience de mon indignité, mais tant pis, c'est le courtage de campagne. Le courtier de campagne est une sorte de pèlerin du vignoble qui va de cave en cave à la quête du bouquet rare, de la saveur ignorée, des indices troublants d'une perfection future. Rien de ce qui est vineux ne lui est étranger. Oh, je n'étais qu'un pauvre amateur, et ceux qui me confiaient le soin de choisir les millésimes qui plus tard parfumeraient leur table étaient peu nombreux et prenaient de bien gros risques. Aujourd'hui que 10 ans se sont écoulés, aucun ne m'a menacé de mort violente. Il faut croire que les Centenais, les Saint-Romain, les Chambol, que je leur ai conseillés, ont tenu leurs promesses. C'est moins à mon nez, à mon palais, à mon goût, que je dois d'être encore en vie, qu'à la loyauté des récoltants qui m'éclairaient de leur savoir et à l'amitié du vin lui-même, qui ne trahit jamais à condition de n'exiger de lui, d'une vendange à l'autre, que ce qu'il donne. Las, j'ai vu, je vois encore d'inqualifiables négociants proposés aux amateurs candides des Bourgognes qui d'année en année se ressemblent comme des claviers d'ordinateur. C'est le Bourgogne goût belge. Même corpulence un peu forte, même arômes trop relevés, même robe trop voyante. Le malheureux courtier de campagne, lui, se désole. L'acheteur soigne ses migraines en racontant que le Bourgogne, c'est bon, mais c'est lourd. Mais où donc est le vin de migraine, avec un grand M ? Le faubourg de migraine, avec un grand M, en Basse-Bourgogne, aujourd'hui, ne possède plus de vignes. Or, pendant plus de 1000 ans, on a vanté le climat de migraine. C'était au temps où le négoce, il faut croire, respectait la règle ancestrale de la vente ad gustum, et que Sicard pouvait chanter « De tout le bon vin de Bourgogne, je dirai mon avis sans peine, je n'en trouve point de si bon que l'excellent vin de migraine ».
Jean-Claude Pirotte, pour moi c'est une découverte, c'est un auteur belge. En fouillant un petit peu, justement pour en savoir un petit peu plus, j'ai découvert qu'il avait tenu une chronique pendant plusieurs mois, une radio, et qu'il écrivait ses chroniques pour la radio. Donc c'est très beau que ça se retrouve à nouveau sur les ondes de Lyon Demain.
Langue très savoureuse. Ah ouais. Il est bon, effectivement très accroché au vin. D'ailleurs, l'éditeur présente cet auteur en disant « C'est un plumitif, un rien pédant et très ivrogne qui a trouvé là de quoi avouer son désir d'harmonie et de conciliation. » A-t-on besoin de commenter ? Voilà, c'est aux éditions du Temps qu'il fait.
Ouais, c'est une très belle maison d'édition. Le petit livre est tout jaune, il est très très beau, avec une illustration où on voit bien effectivement un personnage qui semble être un bon vivant.
Toutes les chroniques dans ce bouquin sont consacrées au vin, hein. C'est pas une imposture, c'est ouais, vraiment ça.
C'est vraiment ça, on peut l'acheter sans problème.
C'est assez court.
Pour les amateurs de vin, merci beaucoup. Nous terminons avec nos Gédéons, nos coups de cœur du moment. Alors, Guillaume, en cette émission, juste avant Noël.
Eh bien, moi, je voulais revenir sur un artiste que j'aime beaucoup, qui sera en concert le mardi 19 décembre au Radiant Bellevue. Et cet artiste, c'est Albin de la Simone, qui a sorti un album extraordinaire cette année. Alors, il faut aimer la chanson en français. Il faut aimer les chansons un peu doudou, les chansons un petit peu polaroïdes qui nous tendent un miroir le long du chemin, comme disait l'autre. Voilà, et donc on se reconnaît beaucoup dans les chansons d'Albin de la Simone. C'est toujours très tendre. Il a cette capacité d'emmener le public à chaque concert. Et donc voilà, moi j'ai très envie de le revoir. En fait, je pense que je l'ai vu des dizaines de fois. Je pense qu'à chaque fois qu'il passe sur Lyon, je vais le voir. Donc voilà, c'est au Radiant Bellevue. C'est mardi 19 décembre 2023. Et c'est Albin de la Simone.
On écoute un extrait.
Petit moi.
La photo que je vois, cet enfant dans tes bras, je ne le connais pas. Tu me dis que c'est moi. Je te reconnais, toi. Ta beauté lumineuse, hardie et valeureuse, heureuse, je ne sais pas. Il a bien de la chance, ce petit petit moi qui savoure en silence un moment dans tes bras qu'un jour il oubliera. Au loin dans la nature, en liberté l'aîné galope à belle allure sur le dos d'un poney. Et cet homme endormi, c'est un père, un mari, est-il déjà parti ou encore un peu là? Il a bien de la chance, ce petit petit moi qui savoure en silence
un moment dans tes bras, il a bien de la chance. Ce petit, petit moi qui savoure en silence. Un moment dans tes bras, qu'un jour il oubliera. Qu'un jour il oubliera.
Merci Guillaume. Albin de la Simone, ça sera quand? Mardi 19 décembre.
Au Radiant Bellevue, dans la grande salle du Radiant Bellevue.
Et pour toi Gaëlle, quel est ton Gédéon cette semaine?
Mon Gédéon de la semaine est le dernier album sans photo pour la liberté de la presse, 74e numéro édité par RSF, Reporters sans frontières. Album tout autant mythique que malheureusement nécessaire. À la lecture du dernier baromètre RSF des journalistes tués depuis le début de l'année 2023, 44 journalistes ont déjà disparu et 498 journalistes sont emprisonnés dans le monde. Elliot Erwitt, tout récemment disparu, le 29 novembre dernier, à l'âge de 95 ans, fort d'une prolifique carrière, 600 000 négatifs au compteur, signe ce dernier sans photo pour la liberté de la presse. C'est toujours avec un regard bienveillant qu'Elliot Erwitt s'est érigé en grand observateur de la race humaine et des chiens. L'album compile d'iconiques photos, dont ces fameux et humoristiques clichés canins. Les amoureux des chiens trouveront d'ailleurs dans cette dernière édition de Sans photo pour la liberté de la presse, des pages consacrées aux chansons ou livres sur les chiens. Le photographe William Wegman, réputé pour ses photos mettant en scène ses braques de Weimar, témoigne dans l'album « Pourquoi j'aime Elliot Erwitt ». Son propos éclaire les démarches différentes des deux photographes. L'album qui met à l'honneur Elliot Erwitt bénéficie d'autres contributions inédite. Les journalistes et écrivaines Marie Desplechin et Sophie Fontanelle, cette dernière titre son article « Comme c'est bien nu » en référence à la désopilante série du photographe sur les nudistes. Mais aussi l'écrivaine Tania de Montaigne, la dessinatrice et écrivaine Dorothée de Montfred et Pauline Vermar, historienne de la photographie. Acheter et ou offrez l'album « Sans photo pour la liberté de la presse », seulement 12,50 € pour une grande cause. En vente dans les maisons de la presse, les librairies ou sur le site de Reporters sans frontières, boutique.rsf.org. Dernier petit clin d'œil à Elliot Erwitt, sa rétrospective est programmée jusqu'au 17 mars 2024 à la Sucrière.
Merci beaucoup.
Pour ma part, c'est pas vraiment un conseil pour un spectacle, un concert, etc. Mais plutôt un acte d'achat militant pour vos cadeaux. Si vous voulez faire plaisir et soutenir la filière du livre, offrez un bon d'achat chez un libraire indépendant. On peut aussi commander en ligne. Le réseau est vaste. 1200 libraires partenaires. C'est bien mieux que la Fnac. Il y en a partout, pour tous les goûts, de la BD à l'essai philosophique en passant par le livre de cuisine et le topo de voyage. Alors, une seule adresse pour trouver votre librairie partenaire de vos envies cette fin d'année, www.librairieindépendante.com. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière de l'année. En attendant, restez curieux.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaëlle Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur liondemain.fr.